Le journal de l'écho, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Le numérique peut-il être écologique? C'est la question du décryptage écho ce matin. Le numérique, on le rappelle, représente 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il nécessite des métaux rares, de l'eau, sa consommation électrique ne cesse d'augmenter, sans compter que ses déchets électroniques sont difficiles à recycler. Sans changement, il y a donc fort à parier que notre transition numérique deviendra insoutenable. Une législation se met peu à peu en place pour contraindre les fabricants et les concepteurs à rendre le numérique plus responsable, mais le web doit aussi être pensé autrement. Focus ce matin sur les enjeux environnementaux et les avantages économiques, car il y en a, de l'éco-conception du web. Un décryptage d'Annabelle Grelier.
Changer moins souvent d'appareils pour allonger leur durée de vie, privilégier le reconditionné, les utilisateurs sont de plus en plus incités à une utilisation raisonnée du numérique. Mais il n'y aura pas d'usage sobre sans réseau sobre. Autrement dit, nos usages sont étroitement liés à l'offre des services numériques. Site internet, applications, podcasts, l'heure est à l'éco-conception, nous explique Frédéric Bordage, président du collectif d'experts du numérique responsable Green IT.
La Deutsche Bahn a réussi à diviser par 1350 la quantité de ressources nécessaires, ressources informatiques, pour trouver l'horaire d'un train. Donc l'enjeu de l'éco-conception des sites web, c'est ce qui va permettre de réemployer nos terminaux vieillissants, c'est ce qui va permettre de faire durer les infrastructures. Et il n'y a rien d'aussi critique aujourd'hui, si on veut pouvoir développer le réemploi, éviter de migrer vers la 6G, que d'éco-concevoir son site web. Et pour y arriver, c'est très simple. C'est porter une attention particulière à la façon dont on va écrire le code, aux nombreuses fonctionnalités qui sont pas forcément essentielles. On va pouvoir aussi donc faire attention au taux de compression des flux vidéo et des flux audio. Bref, on va appliquer des optimisations techniques qui vont nous permettre de réduire de façon conséquente les impacts environnementaux sans que ça soit perceptible en fait par l'utilisateur final.
Alors des lois françaises et européennes existent qui visent à réduire l'impact environnemental du numérique, mais quid, Annabelle, de l'intérêt économique des entreprises à s'y conformer?
Le cadre législatif a été posé en effet. Un règlement européen s'applique déjà aux opérateurs télécoms et fournisseurs. La loi REN, votée en France en 2021, prévoit notamment la formation des ingénieurs informatiques à l'éco-conception. La loi Climat et Résilience appliquera également l'affichage d'un éco-score à tous les secteurs d'activité à compter de 2025. Mais rien n'a encore vraiment de coercitif. Frédéric Bordage et les experts de Green IT, qui accompagnent les entreprises sur la voie de la sobriété, assurent pourtant qu'elles peuvent y trouver des avantages commerciaux et économiques.
Il y a un intérêt économique à éco-concevoir un site web qui est très clair. C'est à chaque fois qu'on le fait, on a des taux de conversion qui augmentent, des taux de fidélité des utilisateurs qui augmentent. On a aussi des nouveaux clients qui étaient victimes de fractures numériques, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas utiliser notre service parce qu'ils n'étaient pas assez bien équipés, en bout de ligne ADSL par exemple. Et le fait d'éco-concevoir, de rendre plus léger, on va consommer moins de bande passante Internet, on aura besoin de moins de serveurs, donc on a moins de coûts opérationnels. Donc il y a vraiment un enjeu à éco-concevoir à la fois pour réduire des coûts, mais aussi pour créer de la valeur ajoutée, créer de l'image et améliorer le service rendu aux utilisateurs.
Si la prise de conscience est assez récente, les enjeux sont énormes. En 2020, le numérique représentait 2,5% de l'empreinte carbone annuelle de la France et 10% de sa consommation électrique annuelle. Sans action, les émissions de gaz à effet de serre pourraient augmenter de plus de 45% d'ici 2030, selon l'ADEME.
Annabelle Grelier, merci. On retrouve votre chronique demain l'écho. Dans le journal de 18h, vous nous parlerez d'une technologie française de streaming vidéo retenue par France Télévisions pour diffuser les JO, qui divise par deux la consommation d'énergie et de ressources. C'est le leader mondial du covoiturage. Le français Blablacar aurait bénéficié de plusieurs dizaines de millions d'euros de l'État depuis 2012 grâce à un mécanisme opaque s'apparentant à une rente dont il a été le bénéficiaire exclusif pendant près de 10 ans. C'est ce que dévoile le journal Le Monde. Le mécanisme en question s'appelle le certificat d'économie d'énergie ou CEE. Il impose à des fournisseurs d'énergie de financer des actions favorisant la sobriété pour permettre à l'entreprise partenaire de récupérer des subsides de l'État. Selon Le Monde, Blablacar aurait capté au moins 100 millions d'euros grâce au CEE sur la seule année dernière. L'État a vendu 645 biens immobiliers en 2023 pour une valeur de 280 millions d'euros. C'est le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, qui le dévoile dans un entretien à la Tribune dimanche. L'État est en quête d'économie. Il devrait continuer à vendre des biens immobiliers dont la valeur potentielle est estimée à 5 milliards d'euros, sachant qu'il possède 190 000 bâtiments au total, soit près de 100 millions de mètres carrés. L'entreprise de services informatiques Atos, en grande difficulté et qui s'occupe notamment de la gestion de la cybersécurité pendant les JO, doit présenter aujourd'hui son plan de refinancement à ses créanciers. Hier, une société d'investissement Butler Industries s'est ralliée au premier actionnaire d'Atos, OnePoint. On rappelle que David Layani, à la tête de OnePoint, propose de conserver tous les actifs du groupe et d'assurer une restructuration de la dette qui s'élève à plus de 4,5 milliards d'euros. Enfin, 50 millions de dollars, c'est ce qu'a récolté Donald Trump samedi en une seule soirée de levée de fonds pour sa campagne. Cette guerre aux énormes dons est cruciale. La présidentielle 2024 s'annonce comme le cycle électoral le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Mais les caisses de campagne de Joe Biden sont toujours pour l'instant mieux garnies que celles de Trump, inculpé 4 fois au pénal et qui dépense en frais d'avocat une partie de l'argent récolté auprès de ses partisans.